Radio Barc, nous reprenons l'antenne, c'est le numéro 5 de notre 12e saison. Deuxième partie avec toujours nos deux invités, donc Serge Wabian, directeur de l'Office de Tourisme Côte du Midi, et Claude Lebessou, qui est adjoint au maire, chargé particulièrement de ses affaires de tourisme. J'emploie un mot très vaste pour généraliser, parce que vous avez une longue expression, Claude Lebessou, pour traduire votre délégation. Alors, cette grande enquête, alors c'est vraiment une grande enquête, comment... Première question, comment est-elle venue? Comment s'est-elle imposée à vos esprits?
Alors, elle s'est imposée parce qu'on avait vraiment besoin de mieux comprendre comment fonctionnait en fait le monde de l'autisme. On était, avec Claude Lebessou, intimement persuadés que l'autisme avait une incidence économique très importante, mais on s'est rendu compte depuis quelque temps que on n'avait pas beaucoup de chiffres, pas de données vraiment en fait certifiées, garanties, et qu'il y avait aussi beaucoup de clichés, on va dire, qui circulaient sur les pratiquants du autisme.
Donc, y compris des préjugés, comme on dit, des clichés.
Y compris des préjugés, par exemple sur les pratiquants de la glisse, comme quoi les pratiquants de la glisse étaient des personnes qui dépensaient pas beaucoup sur le territoire, etc. Et donc on s'est dit, il faut qu'on ait des données chiffrées, qualifiées, et donc on a souhaité lancer cette fameuse grande enquête notice. Donc on a pris un cabinet spécialisé avec un consultant qui s'appelle Vivian Vidal, qui est quelqu'un qui ne fait que des enquêtes partout en France, et qui a donc monté pour nous une enquête qui était quand même un petit peu longue, puisque en fait pour répondre à cette enquête, ça prenait plus d'une dizaine de minutes, donc il y avait plusieurs dizaines en fait de questions très très variées, hein, sur tous les types de pratiques, puisqu'on voulait que cette enquête touche absolument tout, comme le disait Claude Lebessou, aussi bien la pêche, la plongée, le nautisme, la plaisance, etc. Et on a mis en place alors toute une grosse machine pour en fait faire répondre le maximum de personnes, puisque comme vous le savez, une enquête, elle est vraiment intéressante si jamais il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Et donc, on a mis en place tout un système avec des enquêteurs qui ont circulé sur l'ensemble du territoire de la Côte du Midi pendant un an et qui ont interviewé 4500 personnes. Donc, il y a 4500 personnes qui ont répondu en fait à toutes ces questions en fait de l'enquête. Et ces 4500 personnes nous ont permis justement en fait d'avoir des données en fait, des éléments chiffrés sur les différentes typologies en fait de clientèle et surtout sur leur manière de fonctionner.
Une enquête de face à face, en face à face.
Alors, une enquête en face à face, mais qui était aussi réalisable en fait sur le web, sur Internet, en fait en digital. Donc quelquefois, comme ces enquêtes un peu longues, il fallait qu'on soit sur place, il fallait aussi qu'on ait des enquêteurs qui parlaient langue étrangère, parce que l'intérêt c'était aussi, bien de questionner les habitants de la Côte du Midi, mais aussi en fait les touristes. Donc ça nous a pris du temps, ça coûte un petit peu d'argent, mais on s'est dit que ça valait vraiment le coup, parce qu'il fallait qu'on ait en fait des données vérifiées en fait, pour vraiment pouvoir savoir aussi comment s'adapter, parce que l'idée de cette enquête, c'était pas juste pour avoir une enquête, c'était aussi pour pouvoir se dire comment est-ce qu'après ça on allait
tirer
pouvoir...
tirer des leçons.
Exactement.
Oui, voilà l'important. Elle a duré combien de temps?
Elle a duré un an, en fait, le temps de...
Alors, combien de personnes questionnées?
4500 personnes qui ont répondu, en fait.
Oui, c'est beaucoup plus que les échantillons habituels dans un sondage national, par exemple.
Alors, je pense que c'est la plus grosse enquête qui a jamais été faite en France sur le nautisme, parce qu'il n'y a jamais d'enquête de cette ampleur qui ont été faites. Et pour nous, c'était important, encore une fois, parce qu'on voulait avoir... toutes ces données qui nous permettent maintenant d'adapter en fait nos différentes actions.
Alors on va essayer de prendre point par point, même si j'imagine que c'est très complexe, les leçons essentielles que vous en avez tirées. Vous avez évoqué, lancé une petite piste, Serge Wabian, sur l'aspect sociologique, les gens. Alors on croyait que c'était le hippie du coin qui... en réalité c'est pas ça du tout. Essayez de nous en dire plus là-dessus.
Alors on s'est rendu compte effectivement que déjà il y avait différents types de pratiquants. Ça va, comme disait Claude Lebessou, du pratiquant qui fait de l'aviron à la plongée, à la pêche sous-marine, à la pêche au gros, etc., à la voile, effectivement à toute la filière de la glisse, qui est une filière très importante, parce que quelquefois on l'oublie, mais on est vraiment pour beaucoup de pays étrangers considérés comme la Mecque européenne en fait de la glisse, puisque quasiment tous les records du monde de vitesse de glisse, faut le savoir, ont été battus en fait chez nous sur la plage de la Palme et à Le Cat. Et donc pour nous, voilà, c'était effectivement important de pouvoir bien connaître ce type de clientèle.
Oui, un petit point de vocabulaire. La glisse, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Qu'est-ce que ça implique pour vous, pour expliquer aux auditeurs quelles activités sont couvertes par ce mot, la glisse? c'est tout ce qui utilise le vent. Alors c'est la voile aussi ou
C'est de la voile, hein. C'est forcément de la voile, c'est la planche à voile.
Mais tous ces records de vitesse qu'évoquait Serge Wabian à l'instant, c'est pas de la voile. Enfin si, c'est quoi
ça? Si, c'est de la planche à voile.
C'est de la planche à voile, oui.
La planche à voile qui évolue sous diverses formes, hein. Il y a le kitesurf, vous savez, avec une voile qui est déporté à...
Alors un kite en anglais c'est un cerf-volant, donc c'est un cerf-volant qui vous guide.
Voilà, il y a le kite, il y a maintenant les planches qui volent sur l'eau.
Alors oui, avec les foils, encore une nouvelle. Il y a beaucoup de technologies finalement.
Il y a beaucoup de technologies, mais qui amènent les pratiquants à des vitesses de plus en plus rapides, hein, et de plus en plus techniques, avec une évolution du matériel aussi qui est... C'est souvent des centres d'essai, hein, sur nos plages. Hein,
oui. À ce sujet, puisque vous tendez la perche, Claude Lebessou, je crois qu'il existe alors un hôtel d'entreprise à Le Cat qui s'appelle la Manufacture de la Glisse, qui héberge ce genre d'entreprise où on fabrique peut-être les super bateaux de l'avenir.
Oui, on a la chance d'avoir ce beau bâtiment sur le CAT, où on peut accueillir des entreprises innovantes qui vont justement en fait travailler.
C'est tout à fait dans l'esprit de la glisse.
Exactement, et surtout ces changements technologiques qui sont importants. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que l'arrivée du foil, ça a révolutionné complètement la pratique. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est quelquefois, et même la wing, ce qu'on appelle la wing, ça a permis à des clientèles qui n'osaient pas en fait faire des sports de glisse parce que la planche à voile c'est quand même quelque chose qui est compliqué, d'avoir accès en fait à des nouvelles pratiques plus faciles.
Ah, le foil est plus facile.
Le foil est plus facile, en tout cas la wing est plus facile. Le foil pas forcément, mais la wing est plus facile, c'est-à-dire cette voile en fait comme ça qu'on peut tenir à la main est plus facile que d'autres pratiques comme le kitesurf qui est quelque chose qui demande un peu plus d'habitude en fait et de formation. Et donc ça a entre guillemets démocratisé, on dit souvent c'est un peu comme l'arrivée du surf des neiges par rapport au ski, ça a démocratisé ces pratiques et donc ça a permis pour nous de proposer en fait à des touristes qui sont quelquefois là que un ou deux jours, de se mettre en fait à la pratique de la glisse alors qu'ils n'auraient pas pu le faire forcément avant. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les clichés, effectivement, on s'est aussi rendu compte par exemple que tout ce matériel là, il a beaucoup évolué, il est plus facile en fait à utiliser, par contre il est aussi beaucoup plus cher. Et donc on s'est rendu compte que aujourd'hui quelqu'un qui pratique régulièrement en fait la wing avec un foil, il va avoir entre 5, 10, 12 000 euros de matériel en fait dans son coffre. Donc vous avez bien compris déjà que pour certaines pratiques, alors c'est pas pour tout heureusement parce que l'idée c'est que le nautisme ce soit démocratique et tout le monde puisse en faire, mais pour certaines pratiques de la glisse, ça concerne quand même des clientèles CSP+, qui ont des budgets très importants.
Avec des retombées économiques, alors peut-être pas dans la fabrication, mais au moins dans la vente. Mais à part la manufacture de Leucat que j'évoquais à l'instant, la plupart de ces matériels sont fabriqués ailleurs.
La plupart de matériels sont fabriqués ailleurs, mais il y a aussi des fabricants locaux. Hein. Il y a F1, par exemple, qui est un fabricant qui est à Montpellier. Et surtout, rien que la vente de matériel est quelque chose de très important. Il faut savoir que dans des gros surf shops, comme effectivement certains surf shops qui sont sur la commune en fait de Leucat, c'est les champions qui font plus de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en fait par année. Donc rien que le matériel génère un chiffre d'affaires et une économie qui est importante, mais en fait on sait bien qu'il n'y a pas que le matériel. Quand les gens viennent pratiquer chez nous, en fait ils restent sur place.
Oui, après il y a l'hébergement, les séjours.
Oui.
Alors Claude Lebessou, oui.
Et même si on prend la base de La Palme par exemple là. Où on travaille très bien avec le maire de La Palme. C'est un personnage qui a bien compris le message sur sa base de vitesse qui est à La Palme. Il sait, lui, qu'il a des étrangers qui viennent de l'Europe du Nord, qui viennent des États-Unis, pratiquer sur la base de La Palme parce que l'axe de vent est parfaitement orienté.
Oui, c'est le bon endroit pour s'attaquer au record.
Voilà. Alors, ce qui fait que c'est même pas des gens qui viennent en camping-car, là. Ce sont des gens qui viennent louer des appartements, quelquefois, pour 10, 15 jours.
C'est des sportifs de haut niveau, parfois.
Oui,
même.
Oui, là, il y a c'est des bons planchistes, quand même. Mais en plus, ils travaillent sur place, c'est-à-dire, ils font du télétravail, donc ils restent plus longtemps sur place, ils consomment plus longtemps sur place, et ça génère, effectivement, en hébergement et en restauration, des chiffres d'affaires qui sont conséquents. Et le maire de La Palme l'a très bien compris, ça.
Oui, et ben tant mieux pour lui. La Palme est un endroit particulier dans le monde pour la glisse.
C'est une base de vitesse reconnue aujourd'hui.
Oui. Serge Wabian.
Ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est qu'il y a tous ces pratiquants en fait expérimentés. Il y a aussi toute l'industrie du loisir qui est associée, puisqu'on a plus de 150 entreprises sur le territoire de la Côte du Midi qui vivent grâce en fait au nautisme et grâce à la glisse, avec des cours, avec des écoles en fait de kitesurf, avec des ports de plaisance, etc. Rien que ça, ça représente déjà plus de 17 millions d'euros juste en fait sur la partie vraiment des entreprises qui sont liées en fait au loisir de la plaisance et du nautisme. Alors si on prend toutes les retombées économiques, y compris donc les chiffres d'affaires des ports de plaisance, toute l'économie qui est liée en fait à la glisse, et comme le dit Claude Bessou, tous ces touristes qui viennent, qui restent longtemps, qui consomment sur place parce qu'ils ont des moyens, parce que vous comprenez bien que quand vous dépensez déjà 10 000 euros de matériel, vous allez le soir aller au restaurant, vous allez prendre des cours de kitesurf, vous allez louer un bel appartement, en fait toute cette économie, ça représente plus de 100 millions d'euros de dépenses par an, donc vous imaginez quand même, et ça c'est un chiffre qu'on n'avait pas imaginé entre guillemets.
Ça c'était un peu la découverte.
Complètement, ça a été la découverte. On s'est dit, mais en fait, c'est vraiment une économie très importante. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, en fait, pour s'adapter à ces pratiques? Qu'est-ce qu'on doit faire pour accueillir le mieux possible, en fait, tous ces pratiquants? Et quand on parle de pratiquants, là, on a beaucoup évoqué, en fait, les touristes. Mais Claude Lebessou le sait, puisque ça fait très longtemps qu'il côtoie, en fait, les clubs nautiques et les écoles de voile. Il y a aussi beaucoup de pratiquants locaux, en fait, des gens qui habitent là. Et ça, c'est important aussi de développer. C'est vrai qu'on a quelquefois, on dit qu'on n'a pas cette culture nautique. Alors, c'est sûr que la culture nautique, on l'a beaucoup quelquefois en Bretagne, dans ce endroit comme ça. Mais justement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Il faut qu'on arrive à pouvoir impliquer en fait les habitants, leur faire comprendre qu'ils habitent sur un territoire qui est complètement incroyable par rapport à la pratique du nautisme, de la plaisance et de la glisse, et que donc en fait il y a toutes ces écoles de voile qui sont réparties un petit peu partout, qui soient d'ailleurs aussi bien en fait sur la partie littorale quelquefois que sur la partie étang, voire en fait sur la partie des canaux, et que donc en fait il faut qu'ils puissent profiter de toute cette offre de loisirs qu'ils peuvent consommer eux toute l'année, parce que ça aussi c'est important, le nautisme, et on s'en est rendu compte, ça irrigue le territoire en fait toute l'année. Vous avez des gens qui viennent pratiquer le nautisme à partir du mois de février et qui vont pratiquer le nautisme jusqu'en fait fin novembre.
Alors vous avez parlé des locaux, Serge Wabian, mais parmi ceux qui viennent de plus loin, dont certains, vous disiez, ont un niveau de revenu assez élevé, géographiquement, j'imagine que votre enquête vous a éclairé aussi sur l'origine.
Oui, elle nous a éclairé sur l'origine. Alors ça, on s'en doutait un petit peu, mais ça a renforcé en fait ce dont on se doutait, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui viennent d'Europe du Nord, parce que les Allemands, les Suisses, les Belges, les gens qui viennent de Scandinavie sont des pratiquants importants en fait du nautisme et de la glisse, aussi parce que quelquefois pour eux ils ont des conditions qui sont moins favorables. Donc ça aussi, mais surtout ce qu'on ne pensait pas, c'est à quel point ils étaient nombreux à venir, à quel point ils dépensaient de l'argent quand ils venaient chez nous, et surtout qui restaient longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement, par rapport à un touriste normal, un pratiquant du nautisme et de la glisse consomme beaucoup plus. Ça, c'est la premier constat qui est très important. Voilà. Et ça, c'est pas ce qu'on pensait. Quelques personnes croyaient au contraire qu'ils consommaient moins, ils consomment plus. Et surtout, ils viennent plus souvent, ils viennent toute l'année, et ils viennent très longtemps. Comme le disait Claude Lebessou, par exemple, on a des exemples de Suisses qui sont venus quelquefois pendant un mois et demi, qui faisaient du télétravail le matin sur, par exemple, la commune de Fleury, et qui pratiquaient en fait le nautisme et l'église l'après-midi. Alors, vous imaginez, des gens qui louent des appartements et qui consomment comme ça pendant un mois et demi, c'est extrêmement intéressant au niveau économique.
Ah, c'est du travail à mi-temps et du tourisme à mi-temps, quoi. Enfin,
oui, souvent sur du hors-saison. Hein. Donc, là où c'est intéressant.
Oui, voilà.
On est sur les ailes de saison.
Ce qui rend d'autant plus rentable tous les investissements qui ont été faits auparavant. Et alors, quid de Toulouse, puisqu'on a pas loin de chez nous quand même une grosse agglomération également, qui, en quelques heures de voiture, est là. La clientèle toulousaine, c'est plutôt celle qui vient de la journée dans l'ensemble, ou qu'est-ce que vous avez comme indication?
On a un peu de tout. On a effectivement les Toulousains, c'est vrai, c'est un peu nouveau, qui viennent quelquefois, qui font l'aller-retour en fonction des conditions en météo, de vent, et qui viennent pratiquer la journée. Après, on a la chance d'avoir beaucoup de Toulousains qui ont des résidences secondaires, hein, dans toutes les stations littorales, on le sait, Saint-Pierre-la-Mer.
Ah, c'est le grand réservoir humain, quand même.
Exactement, c'est le réservoir. Moi, j'étais toujours, on est vraiment Toulouse-Plage, en fait, hein, d'Arbonnet sur la côte du Midi. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut qu'on travaille. Donc, tous ces Toulousains, ils viennent passer des week-ends, ils viennent pratiquer. Ce sont des gens qui ont des moyens, parce que vous le savez, Toulouse, maintenant, c'est la troisième plus grande ville de France, avec quand même plus 35 000 personnes qui travaillent chez Airbus ou sous les sous-traitants. Et donc, encore une fois, ce sont des gens qui ont des moyens, qui vont pouvoir venir, qui vont pouvoir pratiquer et qui sont à 1h30 en fait, ou 2h de chez nous.
Oui, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est qu'avec la météo aujourd'hui que l'on a sur nos téléphones, on sait quel vent il va faire demain matin à tel endroit. Et donc, ils sont à peu près sûrs des conditions météo en venant le lendemain. Et ce qu'a révélé l'enquête, parce qu'il y a les 100 millions d'euros là qui les 120 millions d'euros qui nous permettent de mesurer l'impact du nautisme. Il y a également ce qu'a révélé l'enquête, c'est les accès aux plages et les accès aux plans d'eau.
Et les accès routiers, vous voulez dire? Routiers, vous voulez dire?
Non, les accès aux plans d'eau, quand on est à la nautique, par exemple, comment on accède aux plans d'eau? Si on n'a pas de parking, si on n'a pas de quoi stationner.
Oui, c'est quand même lié au trafic routier, quoi.
Ça peut être lié au trafic routier, ça peut être lié aussi
à l'accueil, enfin à l'hébergement.
Et oui, et puis aussi à la préservation de l'espace naturel. On est tous d'accord pour préserver l'espace naturel. C'est même sur les étangs, ça paraît tellement évident. Mais on doit en même temps
trouver
cet équilibre, tenir compte de l'accès au plan d'eau pour les pratiquants du nautisme.
Voilà, si on vient en voiture, il faut des endroits pour se garer. La palissade, oui.
Oui, et puis pour rejoindre ce que dit Claude Bessou, c'est que pour nous, le nautisme et la plaisance, c'est vraiment une pratique tout à fait écologique, il faut le savoir, puisque...
Oui, ça pollue pas.
Exactement, ça pollue pas. Et même les quelques pratiques qui sont faites à moteur sont quand même des pratiques qui aujourd'hui sont en train d'évoluer vers des moteurs maintenant à éthanol, etc., de plus en plus des moteurs hybrides. Donc ça veut dire que c'est une pratique qui est vertueuse et ça correspond complètement en fait à l'image qu'on veut donner de nos territoires. Aujourd'hui, nous, notre positionnement touristique est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que le territoire de l'Aude, et principalement la Côte du Midi, c'est un territoire qui est vertueux. On le sait, il y a beaucoup d'énergies renouvelables déjà, il y a beaucoup de sites préservés, et donc cette partie plaisance et nautisme, elle va dans ce sens-là, c'est-à-dire donner une image de notre territoire comme un territoire qui est préservé, qui a été peu urbanisé, et c'est vraiment une grande chance qu'on a, et pour lesquels, en fait, les gens viennent passer des vacances, parce que justement, ils ont ce côté nature et environnement préservé.
Voilà. Et puis alors, il y a du vent, pour certains, c'est un inconvénient, mais tout ce qu'on vient de dire démontre la façon, je dirais presque intelligente, dont on a appris ces dernières décennies à utiliser le vent comme un outil favorable.
Oui.
C'est un petit peu presque un défi au démarrage.
C'est un défi, mais moi je pense que le vent, en tout cas c'est la manière dont on réagit, c'est que le vent pour nous c'est vraiment un avantage. Quoi.
Oui, aujourd'hui
c'est un vrai plus.
Voilà,
exactement. Absolument. C'est un vrai plus. Il faut qu'on s'adapte. Alors, bien sûr, quelquefois ça a des côtés qui peuvent être un peu dérangeants, mais on sait s'adapter aujourd'hui par rapport à ça. Mais surtout, ça nous permet d'avoir toute cette économie à l'année des pratiquants, et ça c'est vraiment grâce au vent qu'on peut l'avoir.
Voilà, vive le vent. J'en profite avant de marquer une deuxième pause pour signaler que notre prochain invité justement sera Olivier Guiraud, qui est le directeur de développement du projet Olmed de Port-la-Nouvelle. Une autre façon d'utiliser le vent. On se retrouve tout de suite après pour une troisième partie.